Je suis en compagnie de Sandy Montagnola, docteur en sciences de l'information et de la communication, qui travaille actuellement sur le sport pendant la grossesse. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Alors, faire du sport pendant sa grossesse, c'est une des recommandations de l'assurance maladie qui évoque 2 à 3 heures de sport par semaine environ, avec des séances assez courtes et surtout d'intensité modérée, je cite. Mais dans les faits, est-ce que les personnes enceintes font réellement du sport et suivent ces recommandations ?
Alors, c'est, on va dire, forcément, ça dépend des personnes et des femmes. Il y a aussi plusieurs recommandations. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là on parle de ces recommandations-là, mais il y a des recommandations de différentes instances. Et parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est que les recommandations ne sont pas les mêmes. Et là, vous l'avez très bien mentionné, c'est-à-dire il y a la question de l'intensité, et donc jusqu'où on va en fait quand on fait du sport, et combien on peut en faire, et quel type de sport. Ça, c'est les 3 grandes questions. Ce qui est important, ou en tout cas intéressant à voir, c'est que ça dépend des pays. Donc selon les pays, les recommandations varient. Et en France, on a le Conseil, par exemple, national des sages-femmes qui a des recommandations. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques et qui viennent du ministère. Et donc ça veut dire que oui, derrière, il y a vraiment un enjeu de santé publique. Et après, pour répondre, est-ce que toutes les femmes font du sport ? Bah, évidemment, non. On sait que tout le monde ne suit pas cette recommandation. Et après, pour nous, en tant que chercheurs, je pense qu'il était intéressant, c'est de voir aussi que... Pourquoi elles ne font pas toutes du sport ? Il y a évidemment plein de choses à aborder. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu une grande évolution. Et c'est que pendant très longtemps, on disait aux femmes de surtout pas faire de sport. Et le discours maintenant est complètement à l'inverse, de les orienter en leur disant de faire du sport. Donc les recommandations sont passées vraiment d'un extrême, on va dire, à ici maintenant, en fait, une injonction. Et c'est ça, en fait, le changement.
Et il y a des freins qui font que, j'imagine, les femmes font moins de sport, notamment des freins physiques liés à des conséquences de la grossesse. Mais tu me parlais aussi de freins médiatiques tout à l'heure.
Oui, c'est vrai qu'il y a plein de freins. Et parmi les freins qui sont les plus évoqués par les acteurs et actrices que je rencontre sur le sujet, là, pour mon terrain de recherche, il y a beaucoup, ce qui revient beaucoup, c'est la question des représentations sociales et des stéréotypes, et notamment l'idée de risque, en fait, qui serait associée au sport. Et donc, c'est ce qui freine le plus les femmes. Et on voit très bien, en fait, plusieurs disent... Je ferai bien du sport ou je continuerai bien le sport pour celles qui en font, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Donc les représentations les plus fréquentes, c'est l'idée d'un risque de fausse couche et l'idée d'un risque éventuellement de malformation ou d'accouchement, en fait, si je fais trop de sport. Et donc ce risque-là amène aussi les femmes à aller vers des sports qui sont les sports les plus doux, donc dans l'inconscience, ceux qui, évidemment, amèneraient le moins de risques. Alors que quand on regarde vraiment la littérature médicale et scientifique qu'il y a maintenant, qui est quand même en fait assez fournie, on voit bien qu'il n'y a pas ces risques-là et que par contre les bienfaits du sport pendant la grossesse sont à la fois au niveau psychologique, mais aussi au niveau social et aussi évidemment au niveau physique, à la fois pour la mère, mais aussi pour l'enfant.
Et que sont justement ces points positifs physiques, j'imagine une sorte d'éducation du périnée peut-être, aussi d'autres choses peut-être dont on parle moins, mais pour des soucis de transit, des soucis musculaires.
En fait, la liste des bienfaits est très très longue. Ça va de empêcher les problèmes de dos avec le poids en fait de la grossesse, mais ça amène aussi sur des choses, par exemple sur la lutte contre le diabète gestationnel. Et là, en fait, ça fonctionne très bien pour ça. Il y a aussi un côté par rapport au poids et donc de pouvoir avoir un poids qui corresponde, en tout cas pas une prise de poids qui serait trop importante et qui pourrait générer des problèmes de santé. Donc si on regarde, il y a des bienfaits au niveau aussi cardiaque, enfin cardiovasculaire. La liste est en fait assez longue. Et puis il y a aussi cette idée qui est un peu peut-être hors sport, mais de se réapproprier son corps et de pouvoir en faire ce qu'on veut et pas avoir l'impression que justement pendant un temps donné, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on n'est pas maître de son corps. Et donc il y a aussi cet enjeu de réappropriation, parce qu'une grossesse, c'est souvent aussi des injonctions de la part des personnes qui sont autour, des collègues, de la famille, toutes les personnes qui en fait vont dire attention, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais... Donc le sport, c'est aussi une façon de pouvoir continuer à vivre sans les injonctions extérieures.
et vivent peut-être de façon aussi moins isolée, puisqu'on peut pratiquer du sport de façon collective. Et il y a des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires, qui vont parfois proposer des activités sportives aux femmes et aux personnes enceintes en général.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a différents établissements. Alors là aussi, c'est des types de sports très, très différents, mais il y a différents établissements maintenant qui proposent... par exemple, la natation, ça fait longtemps que c'est proposé parmi les cours de préparation à l'accouchement qu'on peut trouver. Maintenant, on a des cours qui sont beaucoup plus diversifiés et sur lesquels on va trouver, par exemple, de la danse, ce qu'on avait peu avant. On reste sur des sports qui sont quand même un peu doux en général, mais ça se développe aussi maintenant des salles de sport, par exemple, qui proposent des cours spécialisés pour les femmes enceintes. Donc, on voit qu'on commence à avoir aussi une diversité. Et surtout, l'enjeu, c'était, donc il y a évidemment dans les hôpitaux, mais c'était aussi dans certains clubs, certaines associations, de pouvoir continuer à accepter les femmes enceintes et de ne pas leur dire, non, en fait, tu es enceinte et donc tu ne pourras plus participer. Mais en fait, de pouvoir adapter en fait, certaines séances. Et là, par exemple, sur mes terrains de recherche, il y a plusieurs gynécologues obstétriciennes qui interviennent auprès des crosses, donc des comités régionaux olympiques, pour pouvoir former en fait certains enseignants par exemple ou certains dirigeants ou responsables de fédérations qui donnent les cours, etc., pour pouvoir leur expliquer ce que les femmes peuvent continuer à faire en étant enceintes plutôt que d'arrêter en fait complètement leur sport.
Donc là, on est en train de dépasser un peu ce stéréotype de vraiment le sport très doux, presque très féminin aussi pendant la grossesse.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Le fait d'aller vers de la natation, du yoga ou des sports très doux, c'est vraiment lié aux craintes qu'on avait et à cette idée qu'on a eue pendant longtemps, et y compris beaucoup dans les médias, sur l'idée qu'il ne fallait pas en faire trop et que si on allait trop en intensité, il y avait un risque aussi. Et en fait, ce dont on se rend compte là, c'est que si c'est adapté par rapport à certains mouvements, il y a plein de sports et c'est possible de les faire jusqu'à la fin de la grossesse. Et donc ça veut dire que oui, l'idée c'est de se dire on n'est pas obligé d'arrêter son sport et de passer à un sport qui serait pas forcément le sport qui nous intéresse ou avec lequel on est le plus à l'aise, mais de pouvoir continuer son sport en adaptant une partie des façons de faire, des exercices ou de l'intensité. Donc il y a plein de façons d'adapter et de dépasser cette idée qu'il n'y aurait que la natation et le yoga, clairement.
On a parlé des CHU, de certains clubs, salles de sport. J'imagine qu'il y a des inégalités géographiques et sociales dans cette accessibilité à ces cours de sport adaptés.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les hôpitaux, ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Donc, il faut aussi trouver des financements pour permettre, si on veut toucher des femmes qui, par exemple, accouchent dans des hôpitaux publics, pour que ça puisse rester une activité qui soit gratuitement proposée, par exemple, pour les amener en fait, à faire ces sports-là et à les inciter. Ça veut dire qu'il faut trouver les financements pour ça. Et ça, on voit que c'est difficile de trouver des financements pérennes, par exemple, pour avoir ce type d'activité. On en trouve parfois dans ça va être plutôt des salles, par exemple, qui sont des salles privées, et auquel cas, ça veut dire qu'il faut que ce soit des personnes qui puissent à la fois se déplacer, mais aussi qui aient assez d'argent pour le faire. Et il y a plusieurs hôpitaux qui se battent vraiment pour pouvoir, eux, proposer ces activités-là gratuitement, pour que les personnes puissent, pour que ça incite une partie des femmes pour un enjeu vraiment de santé publique. Par exemple, je pense à tout un public un peu oublié de femmes en situation d'obésité, pour lesquelles les bienfaits du sport sont plus marqués que pour d'autres femmes, par exemple.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes de classe peut-être plus populaires, des personnes racisées, qui oseraient peut-être moins aller à ces cours de sport ?
La difficulté, c'est que les freins sont vraiment multifactoriels. C'est est-ce que je peux me déplacer ? Est-ce que j'ai un moyen de me déplacer ? Et ça, c'est vrai aussi pour le sport, en fait, la pratique sportive. C'est-à-dire, est-ce que je vais en club ? Est-ce que j'ai la motivation de le faire ? Et puis tout ce qu'on a vu sur un peu les stéréotypes et les freins qu'on peut avoir. Et dans la littérature, ce qu'on voit aussi, c'est que les freins viennent beaucoup de l'environnement, en fait. Viennent beaucoup aussi des familles qui projettent leur peur en disant tu devrais peut-être pas faire ça. Dans les témoignages, par exemple, beaucoup pour des sportives, il y en a beaucoup qui expliquent que quand elles ont continué leur sport parce qu'elles se sentaient bien, que ça se passait bien et qu'elles avaient l'impression qu'elles pouvaient continuer, en fait, on leur a quand même beaucoup dit attention, tu devrais pas faire autant, et ça fait peser sur elles le fait de prendre ce risque et d'en prendre la responsabilité. Et ça peut aussi faire partie des freins.
Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on pouvait continuer le sport pas seulement en début de grossesse, mais aussi jusqu'à la fin. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à l'accouchement, puisqu'il y a des accouchements qui se font en dansant. Et donc, on peut aller jusque-là.
Oui, et puis là aussi, ça dépend beaucoup des personnes. C'est ça qui est intéressant. Et on a vu des, alors qui restent des exceptions, mais je veux dire, on a des femmes qui ont continué à faire de la course, on a des femmes qui ont continué l'alpinisme, on a des exemples de femmes qui ont continué, et donc il y a des vidéos qui ont été tournées. Alors c'est des sportives de haut niveau qui, parce qu'elles maîtrisent les risques, ça peut paraître impressionnant à voir. Sauf qu'en fait, pour elles, c'est une intensité bien réduite par rapport à ce qu'elles font habituellement. Et en gros, ce qu'expliquent les médecins et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça dépend beaucoup du niveau de départ de la personne, de ses capacités corporelles, parce que là aussi, en fait, la grossesse dépend beaucoup des personnes. Il y a des gens qui vont être très en forme au début, moins à la fin, et inversement. Donc, ce qui est, je pense, très difficile, c'est pour le corps médical de pouvoir s'adapter à chaque personne. Parce qu'on a un suivi, on n'a pas un temps incroyable avec chaque femme enceinte, parce que voilà, dans les hôpitaux, c'est comme ça. Et la difficulté, c'est de pouvoir aussi de ne pas donner une consigne qui serait pour tout le monde, parce qu'on voit que c'est ça qui est compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources sportives, parce qu'on n'a pas les mêmes grossesses. Et donc, le fait de pouvoir s'adapter, et normalement, c'est ce que fait le corps médical pour les sportifs de haut niveau, par exemple. C'est-à-dire on va adapter pour elles spécifiquement en fonction du sport qu'elles font, des muscles que ça sollicite. Donc, mais sinon, oui, il y a plein de sports qu'on peut faire jusqu'à la fin, y compris des sports qu'on déconseillait encore il y a quelques temps.
Et qu'en est-il de l'après-accouchement ? On parle beaucoup du postpartum qui peut être complexe à vivre pour des femmes. J'imagine parfois qu'il y a de la rééducation. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont s'arrêter, même vis-à-vis du rythme de leur enfant ou,
On sait que là aussi, c'est une des sources où on va décrocher en fait, pour le sport. Il y a plusieurs étapes en sport. On sait que les femmes font moins de sport. Les étapes, c'est au moment du collège, par exemple, où on décroche pour tout un tas de raisons. Au moment des études, on sait que ça peut être compliqué, alors que c'est un moment où justement ça pourrait amener un équilibre. Et après, le fait d'avoir des enfants fait que, encore pour l'instant, en France, mais aussi en Europe, ça pèse plus sur les femmes qui donc prennent moins le temps de pouvoir faire des choses pour elles, et donc le sport en fait partie. Après, il y a quand même un temps où on peut continuer, ça dépend aussi de ce qu'on appelle le sport ou l'activité physique, est-ce que c'est adapté ou pas, etc. Mais il y a quand même un petit temps après l'accouchement où effectivement, il faut un temps pour reprendre certains types de sport en fonction de ce qu'on veut faire. Effectivement, on se retrouve avec un bébé, et ce qui parfois peut être difficile. Et on a maintenant des salles, par exemple, qui le font avec les enfants. C'est-à-dire on peut venir, emmener les enfants, emmener le bébé. Et ça permet en fait à certaines femmes de pouvoir continuer à faire du sport en salle ou en extérieur. Parce qu'il y en a qui font aussi, par exemple, aller faire du footing poussette. Et ça permet en fait d'être plusieurs, de partager à la fois effectivement une activité sportive, mais aussi un moment où on va pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc il y a plusieurs pistes en fait pour continuer.
Et puis là, il y a même une reprise de l'espace public par ces femmes qui viennent d'accoucher, donc avec des enfants.
Tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est au-delà du sport, ça pose la question de ce qu'on peut faire après, une fois qu'on a un bébé. Et là, on sait qu'on n'est pas à égalité non plus selon les pays. Il y a des pays où c'est beaucoup plus simple de venir avec un bébé, de pouvoir allaiter. Et en France, c'est assez peu le cas, en fait. Donc, ça n'aide pas à avoir effectivement des activités ou dans l'espace public, ou à pouvoir ressortir, aller dans un bar, alors qu'il y a des pays dans lesquels c'est tout à fait possible de venir avec ses enfants. Donc ça, c'est une autre thématique, mais c'est vrai que ça intègre la question de ce qu'on peut faire et du sport une fois qu'on a un enfant.
Tu m'as parlé tout à l'heure de quelques sportives de plus haut niveau. Est-ce qu'une grossesse, un accouchement en général, ça signifie aussi la fin d'une carrière pour une femme de sportive de haut niveau ou pas forcément ?
On pourrait avoir deux réponses, c'est que sur les stéréotypes, oui, et en fait elles se battent contre ça. Il y a beaucoup de, il y a quand même maintenant beaucoup de femmes qui ont eu des enfants pendant leur carrière et qui justement ont tenu à médiatiser ça pour montrer qu'en fait c'était aussi possible d'avoir des enfants pendant la carrière. Et l'enjeu, je pense, est vraiment important parce que les carrières sont de plus en plus longues, en tout cas sont possibles plus longtemps, et ça veut dire que si je fais une carrière plus longue et que j'attends ma fin de carrière, je vais avoir des enfants à 40, 43 ans, et ça veut dire que ça repousse parfois une envie d'enfant. Et elles ont été plusieurs à dire non, il n'y a pas de raison de le faire, donc je vais pouvoir avoir moi un enfant pendant ma carrière et pouvoir revenir. Ce qui est compliqué, c'est qu'on leur demande de prouver deux fois plus, c'est-à-dire que quand elles reviennent, il faut aussi qu'elles prouvent qu'elles sont capables de revenir au même niveau et même parfois de montrer qu'elles peuvent performer plus après avoir eu un enfant. Donc ça veut dire que ça fait aussi porter sur elle le fait de tous ces doutes, parce que plusieurs ont témoigné en disant on doutait de moi, on doutait de mon retour, les sponsors n'étaient pas sûrs, il y a eu plusieurs sponsors qui ont lâché des sportives qui sont des cas connus maintenant et pour lesquels elle disait en fait il a fallu me battre pour revenir à mon niveau, ce qui n'était pas forcément évident, et montrer que oui je peux le faire avec un enfant. Donc c'est vrai que c'est des conditions qui sont compliquées. Maintenant ça a avancé sur ce côté là c'est qu'il y a certaines fédérations qui ont mis en place maintenant où c'est contractualisé, où en fait elles peuvent avoir des enfants et puis elles ont un suivi, les sponsors les lâchent pas, elles ont leur contrat qui est là, donc c'est adapté. Mais c'est encore assez récent et il y a certaines courses par exemple où je pense à l'UTMB pendant longtemps, donc si j'avais une place à l'UTMB mais que j'étais enceinte, c'était pas possible de conserver la place, alors que pour quelqu'un qui avait une blessure c'était possible. Donc il y a des femmes qui se sont aussi battues pour que la grossesse soit reconnue et qu'ils gardent leur place, ce qui est le cas maintenant à l'UTMB. Donc ça demande en fait aux organisations sportives de pouvoir s'adapter, quoi.
Et médiatiquement, est-ce qu'il y a une différence de couverture quand les femmes, avant la grossesse et après pour ces femmes sportives ?
Ça les amène parfois à devoir parler plus de justement du fait qu'elles vont être mères, de leur grossesse. Donc ça peut les ramener aussi à des questions qui sont des questions considérées comme étant plus féminines, ce qui peut être gênant parce que c'est un des angles qui est déjà très utilisé pour les femmes et beaucoup moins pour les hommes. Et donc ça, certaines n'ont pas envie d'être ramenées à ça, ce qui est assez logique. Après, pour l'instant, je dirais, dans les analyses de corpus que j'ai pu faire moi, ce qu'on voit, c'est surtout on utilise ça comme un sujet plutôt social, plus que dans une rubrique sportive. C'est-à-dire, en gros, on va le médiatiser en disant, elles peuvent être sportives et être quand même maman. Et donc, c'est toujours pour montrer qu'en fait, c'est possible de le faire. Donc, sous-entendu que on se pose encore la question, donc on a besoin de prouver que c'est possible de le faire. Donc on voit bien encore le stéréotype sur lequel ça repose, et ça veut dire qu'elles sont encore pas si nombreuses à le faire. C'est difficile aussi parfois, par exemple, pour beaucoup d'entre elles, si on est vraiment à très haut niveau, c'est les questions qui vont se poser, c'est aussi toute la question des déplacements. C'est la question donc c'est une gestion qui est pas juste, et là on le voit bien avec l'actualité des JO. C'est par exemple, si j'allaite, comment je fais? Est-ce que je peux venir avec mon bébé et partir en déplacement 3 semaines. C'est des questions très pratiques et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est possible sans aucun problème à condition que ce soit organisé en fait et que les institutions soient là et puissent soutenir les femmes et donc leur rendre cette partie de la carrière beaucoup plus facile en fait.
Et ben, merci beaucoup Sandy Montagnola et on espère pouvoir lire vos travaux bientôt sur le sujet.
Merci.